Les passions déchaînées par la tentation du Christ et les incendies se sont à peine éteints que revoici la religieuse. Le film de Jacques Rivette avait fait scandale il y a plus de 20 ans. Il avait même été totalement interdit avant d'être projeté au plus de 18 ans.
Alors on est avec Mathias qui vient de s'installer en studio. Et Mathias, peux-tu nous décrire ce que l'on vient d'entendre ?
Rebonjour Clément.
Oui, rebonjour, les politesses sont d'usage.
Eh oui, c'était un extrait du journal de 20h d'Antenne 2 du 16 novembre 1988 à l'occasion de la ressortie en salle du film de Jacques Rivette, La religieuse, adapté du roman de Diderot, qui avait été censuré à sa sortie en salle en 1966 et dont le tournage n'avait pas été facilité, c'est le moins qu'on puisse dire, par les pouvoirs politiques à travers son ministre de l'Information, Alain Perfitte, qui cherchait à conforter les autorités religieuses face à un film jugé blasphématoire et injurieux envers les religieuses. J'ai dit que le film s'appelait La religieuse, comme le roman de Diderot.
Bien sûr.
Mais en fait, le titre original est un peu plus long. Il s'agit de Suzanne Simonin, La religieuse de Diderot. Et donc, pourquoi un titre aussi long ? Pour se mettre dans la lignée de Diderot, revendiquer l'adaptation d'une œuvre majeure du philosophe, des Lumières, œuvre qui ne sera jamais publiée du vivant de l'écrivain, comme toute sa production fictionnelle. Ainsi, Rivette renvoie à l'État français de l'époque un miroir grossissant. Si cette République revendique un panthéon des grands hommes, revendique aussi une histoire qui décrirait un chemin vers la libération, censurer le film de Jacques Rivette, c'est censurer une nouvelle fois l'œuvre de Diderot, sa force contestataire, mais en même temps affirmer que oui, le roman du philosophe a toujours son mot à dire, 200 ans après, dans une décennie des années 60, elle aussi en quête de libération. Suzanne Simonin est enfermée au couvent contre son gré et interprétée par Anna Karina, égérie de la Nouvelle Vague, égérie de Godard notamment, cette religieuse porte sur elle le visage d'une nouvelle génération de femmes qui cherchent à disposer d'elles-mêmes et de leur corps.
Mais Mathias, pourquoi faire des films sur le XVIIIe siècle ? C'est un siècle à la mode ?
Je ne sais pas si c'est un siècle à la mode, mais en tout cas, je pense que c'est un siècle qui est beaucoup représenté au cinéma ou plus largement dans les productions du visuel. On a tous vu un documentaire ou un docu-fiction sur la Révolution française, la prise de la Bastille, les événements révolutionnaires, la terreur. Tout cela fait partie de l'imaginaire collectif français et aussi un peu chez les Américains, car les deux révolutions sont proches. Et c'est donc compréhensible que le cinéma français se soit attaqué à ce sujet. Le premier argument pour justifier le film sur le XVIIIe siècle, ce serait d'abord l'attrait pour le film d'époque, le film en costume, car le XVIIIe siècle, c'est encore l'Ancien Régime, la société de cour, une société des apparences vaines, qu'a très bien montré Patrice Lecomte dans son grand film Ridicule, où Grégoire Ponceludon de Malavoie, joué par Charles Berling, il joue un aristocrate plein de bonne volonté qui essaie de faire assécher les marais de la Dombe, que tout le monde connaît évidemment.
Évidemment.
Pour cela, il se rend à la cour où il est confronté à un monde superficiel et perfide. L'action se passe sous le règne de Louis XVI, voué à disparaître sous l'élan révolutionnaire. Car c'est aussi ça qui plaît dans le XVIIIe siècle. Savoir qu'une société sera balayée malgré les apparences et le luxe. Car le XVIIIe siècle est une charnière entre la France d'Ancien Régime et la France moderne, telle qu'on aime à se la représenter. Le film historique dresse un pont entre une société qui nous apparaît comme fort lointaine et notre société contemporaine. Ce n'est pas étonnant que Patrice Lecomte, en 1996, date de Ridicule, ait choisi des figures du cinéma français pour son film. Charles Berling, Jean Rochefort, Fanny Ardant, Judith Godrèche, et j'en passe. Toute l'intrigue du film se noue autour des aventures et des mésaventures du jeune Candide, qui ne comprend pas les lourdeurs de la cour, ses convenances, ses chemins sinueux pour arriver à ses fins. C'est un film très politique, entre pouvoir local et le centre du pouvoir, Versailles, loin, très loin des préoccupations concrètes. Cela rappelle un certain discours politique, n'est-ce pas ?
Javel, qu'est-ce que tu as dit, toi ?
Eh bien moi, je dis que les 20 000 esclaves et les 5 000 traîtres qui sont là-bas en face ne viendront jamais à bout de 20 millions d'hommes libres. Vive la liberté !
On vient d'entendre un court passage de La Marseillaise de Renoir avec en fond sonore La Marseillaise d'un autre grand homme, Rouget de Lisle. C'est un film sorti en 1938 avec tout le contexte politique qu'on connaît. C'est un film ouvertement dédié au Front populaire et financé par une souscription publique lancée, je vous le donne en mille, par la CGT.
Évidemment.
Donc le XVIIIe siècle, avec c'est l'épisode révolutionnaire de ce point de vue, n'est pas seulement fait pour faire des films en costume, c'est un siècle éminemment politique.
À
I've always known I was born to dominate your sex and avenge my own.
Is there anything I could do to help?
Come back when you've succeeded with Madame de Torveau.
Yes.
And I will offer you a reward.
Alors, si je ne me trompe pas, c'est un extrait des Liaisons dangereuses, n'est-ce
exactement,
pas?
Exactement, Clément. C'est un extrait de la bande-annonce des Liaisons dangereuses de Stephen Frears, sortie en 1988, la même année que la ressortie en salle de la religieuse de Rivette. J'espère que vous suivez. Tout y est, décor, musique, costume, tout pour faire un bon film d'époque. Mais les Liaisons dangereuses ne s'y laissent pas prendre. Tout, on est dans les années 80. Mylène Farmer chantait Libertine. C'est l'heure d'une autre révolution sexuelle. C'est l'apparition désastreuse du sida aussi. On découvre les corps et les liaisons dangereuses ne connaissent pas moins que deux adaptations la même année, celle de Stephen Frears et Valmont de Milos Forman, tous les deux en 1988. Et l'histoire a plutôt retenu l'adaptation de Frears, sans doute pour le couple Glenn Close-John Malkovich. Les deux incarnent à la quasi-perfection ce couple de roués, comme on disait au XVIIIe siècle, ces libertins sans scrupules qui vont se jouer de Cécile de Volanges, incarnée par Uma Thurman, et de Madame de Tourvel, incarnée par Michelle Pfeiffer, Catwoman. Là aussi, de grandes têtes d'affiche. Je parlerai plus précisément du rôle de Glenn Close, actrice connue pour ses rôles de femme forte, manipulatrice, machiavélique, qui joue ici une merteuil remarquable. Dans ce qu'on vient d'entendre, elle dit « J'ai toujours su que j'étais née pour dominer votre sexe, mais je ne peux pas m'empêcher de citer Laclos dans le texte. Si, au milieu de ces révolutions fréquentes, ma réputation s'est pourtant conservée pure, n'avez-vous pas dû en conclure que, née pour venger mon sexe, maîtriser le vôtre, j'avais su me créer des moyens inconnus jusqu'à moi ?» Tout un programme. C'est donc une véritable libération sexuelle que montre ce film dans les années 80. Et ce libertinage fascinant, et il laisse la porte ouverte à plusieurs interprétations, soit affirmation d'une liberté sensuelle, soit manifestation d'une aristocratie décadente et immorale, sans doute un peu des deux. Et c'est ce qui fait qu'il faut lire le roman et voir le film.
You represent the future. All eyes will be on you.
She looks like a child.
I've heard you make keys as a hobby.
Yes.
It'll be interesting to see how long she lasts.
What on earth is going on with that young couple?
It's a disaster.
This is ridiculous.
This, madame, is Versailles.
Alors Mathias, je ne suis pas très savant en la matière, mais je crois que ce n'est pas une musique d'époque.
Non, pas du tout, car c'est un extrait de la bande-annonce du film, du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, sorti en 2006, avec Kirsten Dunst dans le rôle-titre. Ici, Sofia Coppola raconte l'histoire de la jeune Marie-Antoinette, débarquée d'Autriche pour épouser un homme qu'elle ne connaît pas pour qui elle a peu de désirs. Le tout à Versailles, où les bienséances de la cour sont un fardeau. Son héroïne est jeune, jolie, le tout placé dans des décors et des costumes qui poussent jusqu'au bout l'esthétique du film d'époque. Sofia Coppola filme l'ennui, l'oisiveté, l'insouciance, alliant la tradition du film en costume et une esthétique plus rock et plus pop. La bande originale est significative, au menu les Strokes, The Cure, The Radio Department, Aphex Twin, etc. Et j'en passe. Car Sofia Coppola le sait, son public est féminin, et elle filme une femme emportée dans un monde dont elle ne veut pas. Monde qui sera finalement balayé par la Révolution française. Je pense vraiment qu'on est sensible à ces révolutions au féminin. Marie-Antoinette montre une féminité exubérante, mais malgré tout mélancolique. La liberté se décline au XVIIIe siècle, liberté politique, liberté des mœurs, le tout dans un univers à la fois si loin et très proche de nous. Bref, il est toujours d'actualité de dire « Lumière, action !»
Merci Mathias pour ce parcours sur le cinéma et le XVIIIe siècle. Alors il est 15h15 sur Transistor et on va complètement changer d'univers. C'est l'heure de Tina, There is no alternative, l'émission qui vous susurre de l'économie à l'oreille, une émission qui fait son retour pour ce direct sur nos ondes. Tina, c'est dans quelques instants, après une page de publicité.
Oh non Brenda, 3 jours de la Saint-Valentin et je n'ai toujours rien trouvé. C'est sûr, si je n'offre rien, elle va encore me faire une scène.
Mais si je berre, on ne t'a pas dit que c'était les soldes chez Misogynorama ?
Quoi ?
Eh oui,
tous les cadeaux machos sont à moins 50% pour la Saint-Valentin. Et le paquet cadeau est offert. Tu pourras acheter la fabuleuse alarme de cuisine qui retentit dans toute la maison lorsque ta douce s'éloigne de ses fourneaux ou de ses casseroles.
Vous vous éloignez de la cuisine. Veuillez y retourner immédiatement.
Oh, merci Brenda, quelle bonne idée. Je suis sûre qu'elle va adorer. En plus, c'est rassurant de la savoir en sécurité.
Misogynorama, fournisseur officiel de divorce depuis 2016.